Lourdes 2030, c'est ainsi que l'on pourrait intituler cette intervention du nouvel évêque de Tarbes-Lourdes, Mgr Jean-Marc Mica. Il intervenait à l'abbaye de Belloc le 11 juillet 2023 à l'invitation des moniales et des moines de l'abbaye de Belloc à Urte à l'occasion de la fête de Saint-Benoît. Il s'adressait aux moines et aux moniales, mais aussi à plusieurs membres de l'HBB, l'Hospitalité basco-béarnaise Notre-Dame de Lourdes. Au début de son propos, Jean-Marc Mica, le nouvel évêque de Tarbes-Lourdes, se présente, puis il nous fait un point sur la situation des sanctuaires de Lourdes et sur les orientations pastorales prévues d'ici à 2030. Mgr Jean-Marc Mica, évêque de Tarbes-Lourdes.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vraiment très très heureux de cette de l'occasion de cette rencontre. Alors comme je disais à votre présidente ou au père Philippe, je sais que c'est le père Jean-François qui souhaitait suggérer l'idée de cette rencontre et j'en suis très très heureux. Présentée comme une rencontre, voilà. Donc j'ai pas préparé de conférence, je vous rassure. Et simplement, quelques mots de présentation, et puis après, un échange. Hein. On m'a parlé d'un échange, très bien. Donc, je suis le nouvel évêque de Tarbes-Lourdes, au fur et à mesure que les jours passent, c'est de moins en moins vrai. J'ai été nommé officiellement le 30 mars l'année dernière, ordonné à Lourdes et installé le 29 mai. Donc, il y a la boucle est bouclée, il y a un peu plus d'un an maintenant. Comme pour les bébés, je compte encore en moi, mais enfin, ça ne va pas durer éternellement. Je suis originaire du diocèse de Toulouse, mais je rassure les bigourdans en leur disant que je suis originaire de la région du diocèse de Toulouse qui touche les Hautes-Pyrénées, puisque je suis du Comminges. Ma mère est née à côté de Saint-Gaudens, dans un petit village entre Saint-Bertrand et Saint-Gaudens. Et j'ai passé ma vie là-bas. Mon père travaillait au ciment Lafarge, l'usine de Boussens sur la route de Toulouse. Et donc, j'ai grandi dans ce département jusqu'à avoir un diplôme en génie civil à Toulouse, à l'université, avant de vivre une année à l'étranger, en Écosse, à l'époque où il n'y avait ni WhatsApp, ni téléphone portable, ni Internet, c'était le bout du monde. Et puis un an de service militaire à Orléans, c'était la moitié du bout du monde, avant de revenir pour faire mon séminaire à Toulouse en 1985, ordonné diacre en 90, prêtre en 91, vicaire à Saint-Gaudens, puis curé en banlieue de Toulouse, Escalquin et la Bège, pendant 3 ans, jusqu'à ce que l'archevêque de Toulouse vienne me faucher en plein élan pastoral. J'étais heureux parce que j'étais rentré au séminaire pour être curé, moi, et pour m'envoyer au séminaire, devenir formateur de prêtres. Le séminariste, futur prêtre, voilà. Et donc là, j'y ai passé 15 ans, de 1998 à 2013. Et au tout début de ce temps de service au séminaire de Toulouse, tout en restant prêtre du diocèse de Toulouse, j'ai rejoint la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, qui est plus spécialisée dans la formation des prêtres depuis le XVIIe siècle. Et voilà. Bon. Donc je suis devenu sulpicien, j'ai travaillé 15 ans comme sulpicien dans mon diocèse de Toulouse, en faisant beaucoup d'autres choses à côté, puisque j'étais sur place. Donc j'étais au conseil presbytéral, au collège des consulteurs, à la formation permanente des prêtres, à la formation des laïcs, et notamment des laïcs qui s'engageaient, c'était nouveau encore à l'époque, dans les équipes d'animation pastorale, qui se mettaient en place auprès des curés, petit à petit. Et donc, c'est laïque qu'il fallait former au sens de l'Église, enfin, etc., pour être les collaborateurs proches des pasteurs responsables des paroisses. Bon. Et j'ai beaucoup aimé, je vous partage ça, travailler en même temps à la formation des prêtres et à la formation des laïcs, qui étaient les collaborateurs les plus proches des pasteurs, des curés. Ça a été un beau défi que de former les uns en pensant aux autres, et réciproquement. Ça a été un bel exercice dont je vois bien combien il m'est utile aujourd'hui. Depuis l'âge de 18 ans, j'étais engagé à l'hospitalité diocésaine de Toulouse et j'y ai passé des années, puisque jusqu'à ce que je quitte le diocèse, j'étais aussi l'aumônier du groupe des jeunes de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes de Toulouse. Voilà. Donc, vos visages ne me sont pas inconnus, si je puis me permettre. Voilà, je vois bien tout ce qu'il y a derrière. Maman a été vice-présidente de l'hospitalité de Toulouse pendant des années aussi. Et voilà, les conversations familiales disaient quelques préoccupations que ben, vous connaissez tous, hein, voilà, que nous connaissons bien. En 2013, mes confrères sulpiciens ont eu la mauvaise idée de m'élire comme supérieur de la province de France de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Et donc, pour la première fois, j'ai quitté le sud-ouest, les Pyrénées, etc., pour grimper vers la capitale, où j'ai passé 9 ans. Un premier mandat de 6 ans, et puis j'ai été élu pour un second mandat de 6 ans. Et c'est au milieu de ce second mandat qu'un soir, un coup de téléphone avec un fort accent italien m'a demandé d'aller prendre rendez-vous à la nonciature le lendemain, et puis que j'ai appris ma nomination à Tarbes et Lourdes. Et voilà, dans un nouveau métier, une nouvelle manière de servir l'Église, complètement différente. J'étais très impressionné par, je vais être sincère, moins par le fait d'être nommé évêque que par le fait d'être nommé évêque à Tarbes et Lourdes, à cause de Lourdes. À cause de Lourdes, en soi, mon attachement à ce lieu depuis toujours, hein, depuis ado, 18 ans engagé à l'hospitalité, mais bien avant, les paroisses, les curés, etc., nous expédiaient à Lourdes pour un oui, pour un non. Donc je connaissais bien Lourdes. Hein. Bon. Et puis, Lourdes, au moment où s'achève une période de 3 ans, l'année dernière, un peu de crise quand même, quoi. Hein. Bon. De difficultés, le Covid pendant la moitié de cette période, mais aussi la séparation nette entre le diocèse et le sanctuaire, avec la nomination d'un deuxième évêque propre au sanctuaire, et vraiment une séparation de tout, quoi, hein, des gestions, etc. Bon. Et de la souffrance qui allait avec ça. Je n'étais pas spécialement concerné, mais j'en entendais parler quand même. Hein. Bon. Et donc, quand le nonce m'a dit qu'il me nommait là, que le pape me nommait là, bon, j'ai posé quelques questions. C'est quoi le statut du sanctuaire maintenant? Ça en est où? On entendait tout et son contraire. Bon. Et voilà, donc il m'a bien expliqué les choses. Et de fait, ensuite, quand j'ai pris contact avec les responsables du sanctuaire, ils m'ont donné les textes, les nouveaux statuts, etc., etc. Et c'était bien tel que le nonce me l'avait expliqué. Alors, un petit mot là-dessus, si vous voulez bien, d'abord, hein, pour vous dire un petit peu où en est le sanctuaire. Donc, le sanctuaire était, comme la plupart des sanctuaires dans le monde, sous la responsabilité de l'évêque du diocèse où se trouve le sanctuaire. Bien. Et Lourdes, malgré sa taille, était toujours sous ce régime-là. Puis, il y a eu une période difficile de déclin du nombre de pèlerins et de difficultés économiques après les inondations, de gros investissements qui ont été faits, les inondations qui sont arrivées au mauvais moment. Enfin. Et Mgr Brouvet, mon prédécesseur, a été contraint de faire des recrutements pour remettre à flot l'économie du sanctuaire. Il a recruté des gens qui ont été extrêmement efficaces, puisque de fait ça a bien fonctionné de ce point de vue, mais ça a aussi, la contrepartie, envoyé un signal au monde entier, en termes de communication, en termes de, vous savez, l'euro-pèlerin, vous avez entendu parler peut-être, des taxes qui étaient imposées au pèlerinage organisé, enfin, etc., bon, que ben, Lourdes dérivait vers une dimension plus commercial, économique, etc., que réellement spirituel et de pèlerinage. Bon, à tort ou à raison, en tout cas, s'est développé, a circulé un message de ce type qui a abouti à la décision par le Saint-Siège d'organiser ce qu'on appelle une visite canonique. Donc un évêque de la curie est venu, a interviewé les uns les autres, etc., et ça a abouti à la décision donc de séparer le diocèse et le sanctuaire. Le diocèse étant soupçonné par Rome de puiser dans les caisses du sanctuaire pour rééquilibrer ses comptes, ce qui était faux, mais voilà. Et puis donc de demander au nouveau responsable, donc un évêque, Mgr Antoine Héroard, évêque auxiliaire de Lille, nommé délégué apostolique, et un nouveau recteur, le père Olivier Ribadeau-Dumas, tous les deux parisiens à l'origine, de corriger un petit peu les affaires et de remettre la spiritualité, le message de Lourdes, un peu au centre des préoccupations et des signaux envoyés aux organisateurs de pèlerinage du monde entier, et notamment les Italiens, puisque c'est eux qui avaient été particulièrement sensibles aux affaires. Bon, manque de chance, le Covid est arrivé là-dessus, et très tôt les a un peu bloqués dans leur élan, quasiment tout de suite. Ça a été donc un peu compliqué pour eux, mais ça a permis une espèce d'arrêt un petit peu bienfaisant, en ce sens qu'ils ont eu la disponibilité requise pour travailler, réfléchir, comment relancer les choses, comment peut-être les faire évoluer, comment... et puis rédiger de nouveaux statuts pour répondre à ce que demandait le Saint-Siège, et puis à ce qu'il convenait de corriger, de rectifier un petit peu. Ces statuts ont été votés par l'Assemblée des évêques de France et approuvés par le Saint-Siège et désignent désormais Lourdes comme un sanctuaire national, donc sous la responsabilité de la Conférence des évêques de France et non plus du seul évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes. Je sais, parce qu'il me l'a dit plusieurs fois, que mon prédécesseur avait plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il se sentait quand même bien seul pour porter ce sanctuaire. Et que quand il appelait à l'aide, tout le monde ayant le nez sur le guidon, tout le monde compatissait, mais le laissait seul malgré tout. Bon. Donc désormais, ce nouveau statut, en quelque sorte, oblige la Conférence des évêques de France et se traduit par trois éléments. Le premier élément, le sanctuaire est confié à l'évêque du diocèse. Donc, dans les statuts, il est écrit que l'évêque responsable du sanctuaire, c'est l'évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes. Le sanctuaire est quand même national, mais c'est l'évêque du diocèse qui en est le responsable. Bon. La conférence des évêques nomme un conseil, qui s'appelle conseil d'orientation, qui est composé d'évêques, de responsables de services nationaux, liés à la liturgie, au pèlerinage, enfin, etc., qui se réunit deux fois par an, et qui est un conseil de l'évêque. Un conseil, c'est pas une instance à qui il faut demander la permission de faire ceci ou cela, mais l'évêque réunit ce conseil parmi tous les autres conseils qui l'aident dans sa mission. Donc ce conseil se réunit soit juste avant, soit juste après la conférence des évêques de France, deux fois par an, novembre et printemps. Il s'était réuni depuis la mise en œuvre des nouveaux statuts une seule fois avant mon arrivée. Depuis que je suis là, il s'est réuni deux fois, une troisième fois bientôt, au mois d'octobre. Avec le recteur du sanctuaire, on détermine un certain nombre de sujets, de questions, et puis le conseil donne son avis, et ça me donne du poids ensuite, ça nous donne du poids au recteur et à moi ensuite, par rapport à tous nos autres interlocuteurs, partenaires, etc., collaborateurs, pour impulser des orientations qui, parfois, bousculent un petit peu les choses en place, quoi. Bon. Et la troisième chose, c'est la procédure de nomination du recteur, qui est choisie par l'évêque. Donc j'ai choisi un prêtre que je connaissais, grâce à mon séjour parisien, qui était le vicaire général du diocèse d'Évreux, mais qui est un prêtre originaire de Montauban. Ancien inspecteur des impôts, l'administration l'avait nommé dans le département là-bas, de l'Eure, et puis c'est là qu'il a creusé sa vocation. Et donc il est naturellement entré au séminaire pour le diocèse d'Évreux, puis devenu prêtre pour Évreux, il est devenu vicaire général. Mais il a un an de moins que moi, il souhaitait se rapprocher de son pays d'origine, donc Montauban. Je ne le savais pas tout à fait. Quand j'ai demandé à son évêque s'il accepterait de laisser pour Lourdes, il m'a dit « ça tombe bien parce que depuis 6 mois, on travaille, j'ai déjà en tête un autre vicaire général pour le libérer, lui permettre de rentrer vers chez lui. » Et bien, écoutez, ça tombe bien, donc je dis oui. Oh mon Dieu, merci Seigneur, parce que c'est vraiment un prêtre formidable. Et je mesure à quel point le tandem évêque et recteur est absolument essentiel pour impulser une politique commune, une dynamique. Donc le père Michel Dauban, et on se voit toutes les semaines, et voilà, on participe à beaucoup de réunions ensemble. Il est membre du conseil épiscopal du diocèse, donc, pour reconnecter le diocèse et le sanctuaire, hein, après 3 ans de séparation. Alors les économies sont séparées, il y a 2 économes, des conseils économiques différents, tout ce qu'on veut. Mais pour le reste, il faut regreffer un petit peu les affaires. Alors donc, voilà. Ça se fait naturellement, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail pour tout le monde. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir chez les uns et chez les autres, et du côté du diocèse et du côté du sanctuaire, de se reconnecter. Et donc il y a un bon climat, un bon esprit. Et j'apprécie beaucoup le Père Michel qui impulse vraiment une grande proximité spirituelle et pastorale à la manière d'accueillir les pèlerinages, d'accueillir les pèlerins en général, d'être en lien aussi avec les personnels du sanctuaire. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de salariés, pas tout à fait à 300, mais pas loin, en période de pèlerinage, comme maintenant. Donc c'est beaucoup, beaucoup de gens à qui il faut être attentif et qui sont extrêmement heureux de sentir de nouveau l'esprit de Lourdes être là, quoi. Voilà, l'esprit du pèlerinage. Par exemple, il a décidé, chaque fois qu'il y a des événements importants à Lourdes, de les réunir tous la veille pour leur expliquer voilà ce qui va se passer, etc. Pour les journées de Lourdes, il leur a fait faire les gestes qui ont été proposés aux organisateurs de pèlerinage réunis autour du 11 février, en passant aux gestes de l'eau, à la grotte, etc. Et les gens sont extrêmement sensibles de cette considération, de cette mise en, voilà, en commun, en famille vraiment, parce que il a baptisé cet ensemble à la fois chapelain, bénévole, personnel salarié, la communauté d'accueil du sanctuaire de Lourdes, et il travaille beaucoup, beaucoup à ce que cette communauté en soit vraiment une, avec le meilleur esprit, et c'est remarqué par les responsables des pèlerinages, hein, qui repèrent qu'il y a un état d'esprit, qu'il y a un climat qui fait du bien. Voilà, donc en termes de chiffres, le sanctuaire refait le plein. L'année dernière a été meilleure, évidemment, que les 2 précédentes. Mais cette année, c'est vraiment assez exceptionnel. C'est le sanctuaire, si vous avez l'occasion d'y passer. En juin, il y a eu un tout petit creux, mais même ça, même malgré ça, il y avait quand même du monde. Mais depuis la semaine sainte, et puis de nouveau depuis le début du mois de juillet, là, c'est très, très impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Parfois, le week-end, il n'y a pas assez de lits dans les hôtels pour satisfaire la demande, parce que pendant la crise, le nombre de lits est passé de 25 à 20 000. Donc, il y a moins de lits qu'avant, et parfois, ils sont insuffisants. Voilà. Par contre, ils sont suffisants dans les accueils des malades. Plus que suffisants, parce que la crise du Covid a bousculé assez considérablement, ou assez sensiblement, disons, la proportion ou la physionomie des pèlerins de Lourdes. Dans le jargon local, il y a beaucoup plus de pèlerins dits isolés, même s'ils débarquent à 8 bus de 50 personnes. Ils sont appelés pèlerins isolés, si c'est le curé d'une paroisse qui a organisé ce pèlerinage, et qu'il n'inscrit pas son pèlerinage dans les accueils Notre-Dame ou Saint-Fray, vous voyez ? Donc ils ne sont pas officiellement inscrits dans les tablettes de Lourdes, ils sont considérés donc comme pèlerins isolés, comme des gens qui arrivent comme ça tout seuls. Bon, voilà, il n'y a pas de nuance dans le groupe pèlerins isolés, mais ou individuels, qui représentent, individuels plus qu'isolés, aujourd'hui 90% des pèlerins recensés à Lourdes par les compteurs aux portes d'entrée dans le sanctuaire. 10% seulement des pèlerins sont des pèlerinages accompagnés par des hospitalités ou des organisations de pèlerinage avec des malades. Si vous regardez les processions, l'après-midi ou le soir, il y a beaucoup moins de voiturettes bleues, de fauteuils roulants, etc., que ce qu'on a pu connaître antérieurement. Les chiffres sont éloquents. Hein, en 2022, en termes d'inscription de pèlerinages organisés, c'est remonté à 85% du chiffre de 2019, qui est l'année de référence avant la crise Covid, en termes d'inscription de groupes. Telle organisation, telle hospitalité, tel groupe s'inscrit. Bien. Mais en termes de nuits réellement occupées dans les accueils, c'est à peine 40%. Ça veut dire que chaque hospitalité, chaque organisation, l'UNITA, l'UCI et le reste, arrive avec moins de malades en 2022 qu'en 2019. Vous voyez, 85% des groupes, mais seulement 40% des malades, voilà, par rapport à 2019. 2023 s'annonce bien meilleur, mais malgré tout, il y a une évolution du profil des pèlerins de Lourdes. Et donc, comme cette tendance était observée déjà depuis un petit moment, l'équipe précédente pendant la transition là, a réfléchi à une certaine évolution du style, ou en tout cas une amélioration nécessaire de l'accueil de ces pèlerins qui arrivent sans s'annoncer et qui ne connaissent pas grand-chose à Lourdes. Trouver des gens qui sont pris dans une file, qui font comme tout le monde, qui touchent le rocher à la grotte et qui en sortant voient un responsable et demandent où se trouve la grotte. Bon. Et donc, les chapelains, etc., ressentent la nécessité de se montrer plus pédagogues qu'autrefois. Il y a des choses qui allaient de soi, une espèce de culture de base que les gens avaient, que les chrétiens avaient, à propos de Lourdes, et que ceux qui aujourd'hui viennent à Lourdes n'ont plus nécessairement, et les Français et les étrangers. Et donc, il faut davantage expliquer. Alors, pour expliquer davantage, il faut améliorer les espaces d'accueil. Lourdes telle que c'est fait, la porte noble d'entrée dans le sanctuaire, c'est la porte Saint-Michel, d'où on a toute la perspective, la grande esplanade, les basiliques, etc. Sauf que plus de 70% des pèlerins rentrent par la porte Saint-Joseph sur le côté, parce que les hôtels sont de ce côté-là. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ces nouvelles réalités, entre guillemets, et donc aménager près de la porte Saint-Joseph un accueil qui va expliquer aux gens, avant qu'ils entrent dans le sanctuaire, où ils arrivent, ce qui s'y est passé, quand, comment, etc. etc. Voilà. Et donc tout ça est organisé autour d'une vision qui a été définie, qui s'appelle Lourdes 2030, et qui est l'objet de plus en plus de communication, etc. etc. et qui additionne à la fois des travaux à faire pour corriger la vétusté d'un certain nombre d'équipements, de toilettes, de que sais-je, de ponts. Il y a toujours une passerelle métallique entre les anciens accueils Notre-Dame puis le nouvel accueil Notre-Dame de l'autre côté du Gave, une passerelle qui est louée à l'armée depuis les inondations. Bon, mais il faudra bien finir par faire quelque chose de définitif. Et d'autres ponts qui ont vieilli, qu'il faut réparer, bon... Donc des choses de vétusté qu'il faut corriger, des choses de normes nouvelles qu'il faut mettre en œuvre, notamment avec la sensibilité nouvelle que nous avons tous acquise autour des questions d'abus et de protection des mineurs, de la pudeur des uns des autres, etc., que ce soit des jeunes au village des jeunes, dans les dortoirs et les aménagements du village des jeunes, que ce soit autour des piscines. On est souvent interpellé autour des piscines, quand est-ce qu'elles vont rouvrir, est-ce qu'elles vont rouvrir un jour, etc. Bon. Notre intention, et le recteur vraiment l'a écrit récemment dans un courrier qu'il a adressé à toute la communauté d'accueil, est vraiment de pouvoir les rouvrir, accueillir beaucoup plus, sans supprimer le geste qui a été mis en place depuis, le geste de l'eau, qui est très très apprécié de beaucoup beaucoup de monde, donc sans remettre en cause ce nouveau geste, le conserver, mais le désir est réel de vouloir réouvrir vraiment la possibilité du bain à beaucoup plus de personnes. Exceptionnellement, sur demande express adressée au recteur, il est possible pour des personnes d'être baignées, aujourd'hui, dès maintenant. Mais c'est une le matin, une l'après-midi. Vous voyez, c'est quand même pas beaucoup, hein. Bon, par rapport à avant. Voilà. Derrière ça, il y a le vieillissement des hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes, qu'il faut renouveler aussi, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre aux piscines, et donc, voilà, il faut qu'il y en ait suffisamment, et suffisamment en forme, parce que c'est physique comme opération, et puis repenser toute l'organisation, je disais, le ménager la pudeur des pèlerins, dans le fait de se changer, l'histoire des pagnes en caoutchouc que l'on se passait de l'un à l'autre, bon, ben ça c'est fini, quoi, c'est plus possible de faire comme ça. Donc il y a tout un process à repenser. Bon. Donc voilà, ce qui est imposé par les nouvelles normes, et puis ce qui est imposé par la prise de conscience que pastoralement, il faut rajouter des choses pour mieux accueillir notre style de pèlerin. Bon, voilà, alors tout ça combiné, ça détermine une vision globale, Lourdes 2030, qui permet, chaque fois qu'il y en aura les moyens, de poser un élément d'un puzzle qui a sa cohérence, et pas simplement de réparer un truc ou de répondre à une norme nouvelle, pof, en faisant ce qu'il faut faire, mais de manière un peu désordonnée. Mais voilà, une vision cohérente a été élaborée et se déploie et se déploiera au fur et à mesure que ce sera possible. Voilà. Parce que si vous entendez parler de Lourdes 2030, c'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'il y a derrière. Voilà, que dire d'autre? Pour ceux qui sont peut-être concernés, qui l'ont croisé, qui le connaissent, le docteur Sandro de Francisis, qui est le directeur du bureau médical, des constatations médicales de Lourdes, est une grosse huile de l'ordre de Malte. L'ordre de Malte, vous voyez ce que c'est, hein, une grosse organisation caritative, médiévale, etc., bon, universelle. Le pape a voulu réorganiser un petit peu les choses et le gouvernement de l'ordre de Malte. Au mois d'octobre, il a demandé au gouvernement de l'ordre de Malte de se mettre de côté et il a nommé 4 nouveaux responsables, dont le docteur de Francisis, qui est le ministre de la Santé de l'ordre de Malte. Donc il est le numéro, je sais pas, 2 ou 3 là-dedans. Bon. L'ordre de Malte a tenu un chapitre général en janvier et il a été officiellement élu, cette fois, à la responsabilité à laquelle le pape l'avait nommé provisoirement au mois d'octobre. Et donc il se prépare à quitter Lourdes parce qu'il voyage dans le monde entier désormais énormément. Il est allé plusieurs fois en Ukraine récemment et dans d'autres régions du monde, en Terre Sainte, partout où l'ordre de Malte soutient des hôpitaux et toutes sortes d'œuvres. Et donc c'est pour nous un gros défi que de trouver un remplaçant au docteur de Francisis, qui est une figure de Lourdes depuis 14 ans, qui connaît Lourdes par cœur et qui fait un bien formidable. Je l'ai accompagné à Assise pour un congrès national italien de l'Unitalsi et je l'ai vu à la manœuvre. Il a donné une conférence, mais c'était éblouissant, éblouissant. Il aime Lourdes, il connaît Lourdes, il parle de Lourdes d'une manière absolument incroyable, tout en faisant son travail de responsable du bureau des constatations médicales, et donc les dossiers qu'envoient les médecins du monde entier pour dire « écoutez, il y a une guérison, on ne comprend pas bien, et donc il faut réunir le comité médical international de Lourdes pour examiner ça de près. » Bon, ben voilà, c'est le travail de... C'est son travail avec d'autres que de mettre en œuvre ce qu'il faut. Je crois que sous sa responsabilité, il y a au moins 2, peut-être 3 miracles qui ont été officiellement reconnus. Le bureau des constatations médicales ne déclare pas des miracles, il déclare des guérisons inexpliquées. Puis ils envoient un rapport à l'évêque du diocèse concerné, et c'est lui qui, éventuellement, décide de qualifier cette guérison inexpliquée en miracle. C'est l'évêque qui le fait. L'évêque local. Bon, je crois qu'il y en a eu 3 sous sa responsabilité. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et un gros défi pour nous que de trouver la bonne personne pour le remplacer. Ça suppose quelqu'un de pas trop âgé, de pas trop jeune non plus, qui aime Lourdes, qui est capable de venir y vivre à plein temps, ou quasiment. C'est pas simple. Voilà, qui parle quelques langues, et voilà. Si, à bon entendeur, salut. Hein, je c'est pas tout à fait par hasard si j'en parle. Bon. Voilà, je crois que de mon côté, j'ai à peu près fait le tour des choses. Mais...
Vous venez de suivre une intervention de Mgr Jean-Marc Mica, évêque de Tarbes-Lourdes, intervention enregistrée à l'abbaye de Belloc le 11 juillet 2023 à l'occasion de la fête de Saint-Benoît. Cette intervention se déroulait en présence des moines et des moniales de Belloc, mais également de plusieurs membres de l'HBB, l'hospitalité basco-béarnaise Notre-Dame de Lourdes.